sortie de boîte, Cédric Adrovert.
Chez notre invité, on peut écrire ce qui nous passe par la tête sur les murs. Non, on ne vous emmène pas dans un squat, on vous emmène pas non plus chez un peintre, on vous emmène chez Créapol, dans leurs nouveaux locaux à Delémont, des locaux qu'ils partagent avec d'autres entreprises. Et là, on sent que tout est fait pour faire émerger les idées. On échange, une fondation de promotion de la santé côtoie une société d'informatique. Notre invité, lui, aide à réaliser les idées des autres. Il n'a pas le profil de Steve Jobs, c'est lui qui le dit, mais il se décrit comme un entrepreneur accompagnateur. Son job, c'est effectivement d'accompagner les entreprises qui se lancent, début à la fin, sur tous les fronts. Notre invité est un homme sérieux, mais aussi, on le sent, quelqu'un de très ouvert. Parce que, après tout, il faut sûrement être un peu fou pour croire à certains projets. Ses lunettes ont un cadre noir, sérieux, mais des branches oranges plus originales. Dans son bureau, des livres sur les business models côtoient des figurines de Mickey Mouse. La rigueur mélangée à l'originalité, le public mélangé au privé également, on y reviendra. Le tout sans devenir schizophrène. Bonsoir Daniel Rueg.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de Créapol à Delémont. On va revenir sur cette société, sur sa mission. Un mot sur vous avant. Est-ce que vous vous imaginiez entrepreneur en étant jeune ?
Alors j'ai toujours imaginé qu'à un moment donné, j'aimerais bien pouvoir faire bouger les choses, avancer, déplacer, créer dans ce style-là. Quoi, comment, à cet âge-là, évidemment, sans imagination précise. Mais oui, c'était quand même une idée qui était là, qui était sous-jacente.
Et l'économie, c'est là que vous avez fait vos premiers pas professionnels également.
Alors ça faisait effectivement une suite à mes études en économie. J'ai toujours été passionné pour savoir comment fonctionnent les choses, quelles sont les relations entre les entreprises, les acteurs économiques, qu'est-ce qu'on peut produire, comment on peut évoluer, comment on peut s'améliorer. C'était ça.
Vous avez débuté dans la banque, à la SBS à l'époque. Ça vous a apporté quoi ?
Alors c'était une grande institution et qui permettait à des jeunes qui sortaient d'études finalement de se former au niveau du métier évidemment, mais aussi au niveau de la personnalité, avec des opportunités pour ceux qui en voulaient un peu, qu'on avait sous la semelle, voilà, de se déplacer, faire des séjours à l'étranger, de rencontrer des gens d'autres milieux, d'autres cultures, d'autres environnements. C'était une réelle formation personnelle.
Derrière, à 38 ans, changement complet de domaine, vous quittez le privé, vous passez dans le public, c'est un choc.
Ah, c'est un monde différent, c'est sûr. Mais voilà, l'idée c'était quand même de poursuivre dans ce domaine des services et puis de se dire, mais après presque 15 ans de banque, est-ce que je vais faire ça toute ma vie ? Voilà, on se pose la question et des opportunités se présentent. Et puis là, c'en était une réelle, de venir dans le secteur public, notamment, et de revenir dans le Jura, puisque je suis né à Boncourt, donc dans le Jura. Et pour moi, c'était pas une motivation première, mais c'était surtout l'occasion de pouvoir peut-être apporter ma modeste contribution à la région.
Voilà, vous êtes devenu donc trésorier du canton à cette époque-là.
Ça s'appelle comme ça, oui.
Vous avez également dirigé l'hôpital du Jura, vous avez donc une longue expérience dans le public et dans le privé. C'est quoi les forces de chacun aujourd'hui, si vous deviez choisir entre le public et le privé ?
Alors, en choisissant Créapol, j'ai choisi les deux. évidemment.
Alors, je crois que... Mais c'est deux mondes très différents, quand même.
C'est deux mondes très différents, oui. Qui ont des optiques et des orientations très différentes, des horizons de décision et puis de mise en œuvre de stratégies qui sont totalement incomparables. Et c'est vrai que de vivre dans un environnement qui est à la frontière entre ces deux mondes, c'est pas toujours simple, parce que justement les processus de décision ne sont pas les mêmes, les attentes et les gouvernances ne sont pas totalement comparables. Donc voilà, il faut vraiment jongler, mais c'est tellement passionnant.
Incomparable, mais donc pas forcément incompatible.
Pas du tout. Au contraire.
Au contraire, vous dites.
Absolument.
Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent « Je pourrais jamais travailler dans le public, tout est trop lent, tout est trop... Moi, j'ai besoin de prendre des décisions et que ça aille vite. »
Alors, ça dépend quelle dimension on retient. Si on a la vision d'une entreprise au sens étroit, avec une optimisation des résultats, des marchés, des produits et puis des finances, une vision donc entreprise pure, oui, alors on peut difficilement envisager l'autre monde. Si on a un peu plus de recul, une vision un peu plus macro, on peut se dire notre environnement, c'est pas seulement une entreprise, ce sont des entreprises, des acteurs économiques, autant publics que privés, qui peuvent apporter leur contribution au développement d'une région. C'est ça qui compte.
Votre entreprise Créapol est donc à mi-chemin entre le public et le privé, on va en parler, mais rapidement, Créapol est assez connu dans le canton du Jura, peut-être un petit peu moins dans le canton de Berne ou dans le canton de Neuchâtel. Pour ceux qui ne connaissent pas Créapol, c'est quoi la mission ?
Alors la mission de cette société qui a été initiée à l'époque par l'État jurassien, c'est vraiment de contribuer sous une nouvelle forme au développement économique. Au développement économique, mais avec une approche nouvelle à l'époque, la focale c'est l'innovation. Et puis c'est intéressant de voir maintenant que dans d'autres cantons, d'autres régions, le développement économique se fait encore et toujours selon des méthodes traditionnelles, mais beaucoup d'acteurs au niveau de la Suisse romande et aussi de la Suisse allemande se sont réorientés. On voit dernièrement, le canton de Berne a pris la décision de créer BioAdvance, une société anonyme, comme nous, pour justement remplir la même mission avec le même objectif de diversification économique en passant par l'innovation.
Et très concrètement, vous faites quoi ?
Alors très concrètement, on a un énorme plaisir à voir passer, si je prends les chiffres de l'année passée, une centaine de projets qui sont arrivés chez nous. C'est plus de 100 projets. C'est des gens qui viennent avec une passion, une volonté. Ils veulent créer quelque chose. Imaginez de rencontrer tous ces gens-là, c'est absolument décoiffant, c'est formidable. Et c'est chaque fois un autre projet. Donc voilà vraiment notre métier, notre passion, c'est ça. C'est de recevoir des gens qui veulent avancer, qui veulent faire quelque chose. Et puis dans ce cadre-là, d'optimiser avec eux, c'est de les accompagner de façon efficace.
Aujourd'hui, quelqu'un qui a une idée, n'importe qui peut venir faire appel à vous ?
Absolument. Et on va discuter, on va faire un petit diagnostic ensemble, rapidement, et puis dire, comme ça m'arrive de le dire, même à des gens que je connais personnellement, de dire, écoute, ton projet, voilà, il est bien, il est intéressant, il a peut-être une vie économique, certainement pour telle ou telle raison, mais du fait que c'est pas innovant, on ne va pas vous accompagner nécessairement.
Donc il faut que ce soit innovant, c'est le critère.
Alors, je dirais, les projets qu'on nomme chez nous, les projets stratégiques d'importance de développement économique, la focale, c'est vraiment l'innovation. Et ça, peut-être juste soit dit en passant, l'innovation, c'est pas que des start-up qu'on imagine voilà, dans les parcs technologiques autour de l'EPFL ou à Zurich ou à Bâle, etc., ou aussi chez nous. La moitié de nos cas, c'est des start-up, l'autre moitié, c'est des entreprises de la région, des PME, qui innovent. Elles doivent innover, elles veulent innover sur un projet particulier. Mmh. Et là, on est là aussi.
Oui, l'innovation donc, qui est au centre. Mais l'innovation, ça n'a pas quelque chose d'un peu subjectif. Où est-ce qu'on fait, c'est quoi l'innovation ? C'est un peu la grande question. C'est un mot qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Comment vous arrivez à définir si c'est un projet innovant ou pas ? Je pense que certaines fois, ça doit être évident, mais on n'est pas des fois un peu sur une frontière un peu floue ?
Alors, ce n'est pas une science exacte. Oui. Ça, c'est clair.
Il y a un côté subjectif.
Ce que je dis, chaque fois, quelqu'un qui vient nous rencontrer, c'est dire, voilà, en préambule, je dis, voilà, on va discuter ensemble, on va faire un diagnostic, on va voir si on vous accompagne. Notre appréciation, elle n'est pas objective, ce n'est pas une science exacte. On pense que dans tel cas, ça vaut la peine parce qu'il y a du potentiel, il y a un marché, il y a des produits, il y a de la recherche et du développement. Et là, c'est vraiment la pérennité de l'entreprise après qu'on va créer qui sera importante, avec toute la plus-value que ça peut avoir aussi localement. C'est la création d'emplois, d'emplois souvent à haute valeur ajoutée. C'est ce qu'on rencontre tous les jours. Ou bien alors on va dire, ben voilà, non, on pense de façon subjective qu'on n'y croit pas. On dit aux gens, mettez pas un franc, mettez pas votre caisse de pension.
Vous en dissuadez. Oui.
On est plutôt, voilà, on essaie d'être direct avec notre intuition.
Une fois que quelqu'un passe cette première étape, une fois que vous commencez d'accompagner quelqu'un, c'est quoi les différentes étapes ?
Alors, la première étape, évidemment, on va aider à créer la société, et puis à s'installer, à trouver des locaux. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, quand Créapol avait été créé, il y avait deux entités qui avaient été créées en même temps. Une qui va très rapidement donner l'opportunité de s'installer, trouver des locaux, etc. C'est la Société Jurassienne d'équipement. Et là, elle remplit réellement son rôle à ce titre-là. On a trois incubateurs. Et souvent, les projets de start-up donc, qu'on développe, on les installe dans ces incubateurs. Il y a l'autre volet qui arrive très, très rapidement, dans tous les cas, et ça c'est certain, c'est le problème de financement. Problème de financement, et puis à l'époque, la Fondation FITEC, Fondation d'impulsion, qui, si nous on croit un projet, dans une phase d'analyse, où on va, si vous venez avec un projet, on va vous démonter votre projet dans tous les sens, le retourner en ce qui concerne les produits, la recherche et le développement, les segments clients, les marchés, la distribution, les partenaires clés, les ressources, etc. Et puis, si on vous dit, ok, on a fait le diagnostic, on a fait l'analyse d'opportunité, maintenant, on va vous accompagner. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il faut le premier argent. Et puis, ça répond souvent, on entend parler de ça, du principe des 3F. Les gens qui viennent, ben, enfin, ils ont fait les fonds de poche, hein, ça veut dire leur propre argent, la famille, les amis, et puis il y a le troisième F, c'est les fous, hein, les fools. Hein. Donc, alors on joue peut-être des fois un peu ce rôle-là, mais de façon
vous
quand même...
Vous êtes les fous qui financez parfois les projets.
Non, alors, c'est une image, mais je veux dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on n'avait pas cet outil-là de FinTech, eh bien, ce serait très compliqué. La Suisse, c'est incroyable au niveau financement, et ça, je respecte hein, tout à fait. Les sources de financement pour ce genre de projet, très en amont comme ça, c'est très compliqué.
On est timide, on a peur du risque.
Oui, alors voilà, c'est notre mentalité européenne et suisse surtout qui fait qu'on arrive à cela. C'est vrai qu'on rencontre aux États-Unis des organismes bien plus, je dirais, qui osent bien plus se lancer dans ce genre de projet très risqué. C'est vrai qu'on risque de l'argent, mais on essaye avec le board de FinTech de voir si tel ou tel projet, et ça c'est intéressant d'avoir une vision, je dirais, multiple, une appréciation multiple, de voir si tel ou tel projet, même s'il est risqué, quel est son potentiel, et puis on s'engage. Mais quand on s'engage, alors c'est vrai que sur un projet, après, il y a la phase de mise en œuvre, où là ça peut aller des semaines, mais c'est plutôt des mois, voire des années, on accompagne. Pour le suivi, on met les mains dans le cambouis, on est avec, on accompagne. Mais on doit toujours faire gaffe aussi à une chose, et c'est un réflexe des fois naturel que j'évoque maintenant, c'est de se dire, mais voilà, on prend une telle place des fois qu'on doit un peu quand même de temps en temps se remettre en retrait et puis pas donner la pression lorsqu'il y a une grande décision stratégique à prendre, de la prendre à la place du chef d'entreprise qui a créé sa boîte. Donc là, il faut bien qu'on reste à notre place, évidemment. Ça, c'est très, très important.
Un mot très rapidement, parce qu'il y a les entreprises, mais il y a aussi ce que vous appelez les micro-projets. Vous pouvez juste nous dire deux mots, parce que c'est un projet intéressant, je trouve.
Alors, c'est vrai que chaque année, dans notre structure, on accompagne des gens qui veulent créer leur propre entreprise. Et là, c'est un accompagnement qui est plutôt réduit, restreint. Donc, on fait un diagnostic, on donne les premiers outils, un accompagnement pour construire un business plan, une planification financière, quelques conseils, des contacts avec les banques, avec les organismes qui permettent de créer les notaires, par exemple, pour créer une entreprise, etc. Comment on structure, quel type de société faut créer, tout ça. Et ça, c'est un accompagnement qu'on fait l'année passée, c'est pratiquement 60 cas.
Ce sont des chômeurs, donc.
Si vous l'évoquez, en bonne partie, c'est vrai, c'est des gens qui se retrouvent sans emploi et puis qui ont envie de prendre leur destin en main et puis alors tout à leur honneur, et c'est formidable. Donc on accompagne ces gens qui viennent, et ceci se fait en bonne collaboration, très étroite avec les ORP, et là, la collaboration, elle est super.
Daniel Rueck, vous avez parlé tout à l'heure des locaux, vous aidez les entreprises à trouver des locaux, mais vous avez aussi, vous, trouvé des locaux particuliers, ils sont à Delémont. 5 structures se les partagent. En anglais, on appelle ça du coworking. J'ai cherché un équivalent français, c'était pas facile. Ouais. J'ai pas trouvé, je crois. En fait, j'ai une collaboration, certains disent. Jean-Michel Probst est allé voir Chloé Sass de la Fondation O2. Elle travaille dans le domaine de la santé. Elle partage vos locaux. On fait la visite.
Sortie de boîte.
On a aussi travaillé sur la notion de place de travail. Donc on a des espaces où on peut travailler debout, on peut travailler assis, où on peut s'étaler sur un fauteuil comme celui-là, ou simplement faire une séance à la cafétéria sur une table haute ou sur une table de cafétéria plus basse. Donc on a aussi travaillé sur l'aménagement de cet espace.
Je vous suis.
Alors ici, on a un espace qui est destiné à Kinetic, qui est une start-up de digitalisation. On a cet espace-là. Et puis, on a ici une douche. Des toilettes qu'on a transformées en douche. C'était aussi important pour nous, avec le personnel, de se dire on a la possibilité de prendre une douche si on fait du sport à midi, si on vient en vélo, etc. Donc, c'était quelque chose qui nous intéressait. Et puis, on a 2 salles de réunion. Donc là, une plus petite et une plus grande. On peut y faire un tour, si vous voulez.
Bonjour. Sur quoi est-ce que vous travaillez là? Je peux vous poser la question?
Alors je travaille sur un futur projet qui sera un nouveau moyen de diffuser l'information. Je ne sais pas si je peux en dire plus.
Non, n'en dites pas plus. Votre nom?
Michael.
Et votre métier, c'est quoi? Votre métier de base?
Développeur web.
Le fait de travailler ici, dans cet espace-là, c'est un petit peu particulier. Comment vous le vivez?
C'est vrai que j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles et... Le fait qu'on soit tous réunis comme ça, qu'on partage différents matériels comme les imprimantes, tout ça, c'est un concept qui est plutôt innovateur et puis c'est vraiment bien de travailler comme ça, quoi.
Alors on va...
Ouais, là, un cahier de gribouillage.
C'est des mandalas anti-stress et puis un cahier de gribouillage. Il y en a quelques-uns qui ont été remplis quand même. Pour nous, c'est aussi important de comprendre comment on peut travailler dans une journée, comment est l'attention. Et puis, la notion de santé au travail, en tant que fondation pour la promotion de la santé, c'est aussi une notion qui est importante et puis qu'on essaye de valoriser. Donc, voilà, on a de temps en temps des outils comme ça. On a cet espace-là où on peut aussi s'étaler au bord de la fenêtre et puis lire un rapport, par exemple, ou discuter debout. Enfin, voilà, c'est un aménagement un peu différent. On a essayé de faire attention aussi aux espaces, comme là on a 4 bureaux ensemble, là on en a 4-5. Voilà, on a aussi un peu des codes où on essaye de ne pas parler trop fort. Là je fais exprès, mais il n'y a pas trop de gens cet après-midi, mais pour respecter aussi l'espace de chacun. Donc ici on a l'autre entrée qui est plutôt l'entrée côté Créapôle et DJ, avec là un aspect... où on a aussi du secrétariat, la comptabilité, certaines choses qui sont partagées entre les structures. Donc avant d'arriver à la cafétéria, on a cette table, par exemple. C'est vraiment des tables qui peuvent se monter, se descendre. Et puis, ça peut paraître tout bête, mais faire une séance debout ou assis, c'est complètement, complètement différent.
Ça change.
On est plus dynamique en étant debout.
Debout
oui. En général, on fait moins long et c'est une énergie différente.
Une efficacité.
Oui, une efficacité.
Sortie de boîte.
De retour dans notre studio de Delémont avec Daniel Rueck, directeur de Créapôle, une société qui accompagne les entreprises qui se lancent. Les séances debout, vous pratiquez aussi ?
Absolument.
Ah oui, vous recommandez même.
Absolument. C'est bon pour le dos.
C'est intéressant et c'est surprenant pour beaucoup de monde. C'est open space, ces locaux ouverts où on travaille à plusieurs entreprises. On a l'impression que c'est difficilement tenable, qu'on sera tout le temps dérangé, qu'on ne peut pas garder des choses confidentielles. C'est une structure que vous recommandez ? Vous la pratiquez ? Vous la recommandez ?
Alors, je recommande l'aménagement qu'on a pu faire. J'ai personnellement pu vivre quelque chose à Londres d'horrible. On était 50 personnes sur 80 mètres carrés, c'était intenable. Ici, on a vraiment un espace qui permet et qui favorise les échanges entre des gens. Vous avez cité 5 sociétés, maintenant il y en a une 6e qui nous a rejoint. Et puis, c'est des échanges pour des personnes qui exercent le même métier. Chez nous, c'est la gestion de projet, le suivi de projet et le pilotage. Eh bien, dans des domaines très différents, l'énergie avec EDJ, la Fondation 2, vous avez cité, etc. Eh bien, ces échanges-là, c'est tout bonus, c'est une plus-value pour chacun des partenaires. Résultat des courses kinétiques, c'est une spin-off du fait qu'on s'est rencontrés et puis qu'on a eu une idée en commun qu'on a développée sous la forme d'un projet. Et puis voilà, c'est une société anonyme qui a été créée.
Une société en plus, il y a eu beaucoup de sociétés en plus l'année passée. Ça revient un peu sur la création d'entreprise, c'est votre fonds de commerce. Ce début d'année, le magazine Bilan décrivait 2016 comme un bon millésime pour la création d'entreprise. Plus de 40 000 sociétés ont été lancées, une hausse par rapport à 2015. La crise économique pousse les gens à créer et innover ?
C'est pas impossible. Je m'explique. C'est vrai que dans des périodes de haute conjoncture, on a toujours eu des projets d'innovation, des gens qui veulent créer de nouvelles sociétés ou développer des projets d'innovation technologique dans les PME, etc. On a toujours eu. Mais bien souvent, dans des secteurs d'activité, la haute conjoncture fait que les gens, ils ont pas beaucoup de temps pour ça et laissent peut-être des projets dans les tiroirs. Il faut constater depuis quelques mois, c'est vrai, on n'a jamais eu autant de projets. Alors, je pense qu'en partie, la conjoncture ou les difficultés rencontrées fait que les gens se disent, bon, faut que je prenne mon destin en main, faut que je me bouge, faut faire quelque chose.
Absolument. Sur les 40 000, 5 ans plus tard, il en reste combien ?
Alors, ça dépend où et puis dans quel secteur d'activité. Des gens vous disent que 5 ans plus tard, il en reste, les trois quarts sont tombés, par exemple. Chez nous, dans le Jura, peut-être le modèle qui a été retenu, où on accompagne dans la durée ces sociétés, même si elles ne sont plus des start-up, on garde des contacts, c'est devenu vraiment des contacts, des partenariats très privilégiés, eh bien, on voit que si on a un accompagnement qui est fait dans la durée, le taux d'échec, il est baissé, mais drastiquement. C'est la moitié du taux que je vous ai cité tout à l'heure.
L'entreprise que vous dirigez, Créapôle, est elle aussi face à ses propres défis. En 2015, la Confédération a cessé de subventionner l'entité. Le financement a été réduit de plus de 50%. Comment vous tournez aujourd'hui ?
Alors, eh bien, c'est vrai qu'on a dû prendre aussi nous-mêmes notre destin en main. C'est absolument juste. Et en bon accord avec notamment le côté donc État, Confédération et avec nos autres actionnaires, eh bien, nous avons redéfini notre positionnement. On a développé une stratégie qui nous permet d'assumer et puis de continuer à nous développer. Parce que faire du Créapôle à deux personnes, ça n'a aucun sens. peut-être ce qui fait notre force, c'est une sorte de centre de compétences qui associe une multitude d'expériences, de savoir-faire et de compétences.
Mais vous diversifiez du coup géographiquement en termes d'activité ?
Alors, on a diversifié nos activités, nos prestations par la nature même des prestations, effectivement, et géographiquement. Géographiquement, c'est vrai qu'on est sorti beaucoup plus de notre rayon Jura-Jura, avec des collaborations aussi voulues. On voit dans l'axe Jura-Bâle, donc on a un gros taux d'activité qui est orienté maintenant sur l'ensemble de cette région, c'est vrai, mais aussi sur le reste de la Suisse romande, principalement l'arc jurassien, je dirais, où là, vraiment, on développe des projets. Au-delà de se faire simplement de l'accompagnement, maintenant, donc on développe nous-mêmes, on lance nous-mêmes nos propres programmes de projets, autant avec des privés qu'avec des collectivités publiques. Notamment, on a développé un premier projet dans une première phase l'année passée avec la ville de Porrentruy, c'était entre guillemets notre bac à sable, on dit ça comme ça, pour dans le cadre de la ville intelligente, hein, comment rendre plus efficace le pilotage d'une ville. On va poursuivre ça maintenant sur l'arc jurassien avec quatre cantons. On a un autre projet qu'on a lancé et qui aussi sort des frontières cantonales, c'est dans le smart manufacturing. Alors c'est l'industrie 4.0. Donc comment développer la productivité d'un outil de production avec une remontée des données et des algorithmes qui permettent d'optimiser un outil de production.
Dans ce genre d'activité, on a beaucoup de Marc Rologère qui s'y intéresse également et qui intéresse Marie-Lise Saillard. Chaque semaine, elle nous sert sur un plateau une chronique horlogère. Ce soir, il faut faire attention de rien faire tomber parce que le plateau est huilé.
Pile à l'heure. Introduire un liquide dans une montre, une idée farfelue, mais deux marques ont fait ce pari. Souvenez-vous, au mois d'août, nous avons déjà parlé de la marque HIT ou HYT. L'autre, nous en parlons aujourd'hui, c'est Ressence. L'entreprise est basée à Anvers, en Belgique.
En partant de la porte d'Anvers jusqu'au pont de l'Arc, il y avait juste 70 cafés. Je les ai une fois comptés. Hein.
Mais les montres, elles, sont produites en Suisse, dans le Val de Travers.
Alors, si vous passez une fois dans la région de Neuchâtel, arrêtez-vous, d'accord ?
Ressence, c'est la contraction des mots renaissance et essentiel. Et qu'est-ce que Ressence a introduit dans ses montres ?
De l'huile.
Eh oui, de l'huile. Écoutez les explications d'un collaborateur de la marque Gaëtan Gay.
L'huile, on utilise 35 ml d'huile, donc vous avez un petit espresso dans la montre. Par contre, il y a des petites solutions techniques à apporter dès le moment où vous utilisez l'huile parce que le volume d'huile change avec les variations de température. Le volume d'huile va se contracter ou se dilater. Et donc, on est venu avec tout un système, hein, ce qu'on appelle notre système de soufflet. Donc, on a 7 petits soufflets dans la montre. Un soufflet, c'est comme un petit ressort qui va permettre de compenser cette dilatation ou cette contraction et qui va s'assurer qu'il y a toujours la même pression dans la partie avec l'huile.
Où est-ce que vous l'avez mis, l'huile, dans cette montre ?
Donc, elle est dans la partie supérieure. Vous avez donc notre complication horlogère qu'on appelle ROX, 215 composants qui baignent dans 35 ml d'huile. Et dans la partie inférieure, vous avez le mouvement de base dont on prend uniquement une seule information, c'est la minute. Donc, la minute est donnée et puis le ROX va régénérer toutes les informations temporelles. Donc typiquement sur cette type 3, heure, minute, jour, date et la température de l'huile.
Un des avantages d'avoir mis de l'huile dans la montre, c'est que ça sert de lubrifiant permanent.
Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
Oui, bon, ça c'est effectivement quand la température grimpe. Mais que se passe-t-il quand la température est basse, très basse, par exemple lors d'une expédition polaire ?
Il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi ? Parce que premièrement, la température de la montre, c'est un mix de la température ambiante, bien sûr, mais également corporelle, puisque vous portez votre montre. Donc la montre, elle est toujours entre 10 et on va dire 40 degrés, qui est d'ailleurs la norme horlogère suisse. Et nous sommes allés un peu plus loin, c'est-à-dire que nos soufflets vont de moins 10 à plus 55 degrés. Donc elle est faite pour résister à ces températures-là. Un exemple, la montre est à moins 15 degrés, vous l'avez laissée dehors. Alors elle va toujours fonctionner. Par contre, typiquement, les soufflets ne vont plus pouvoir compenser ces variations de volume. Et vous allez typiquement, quand il fait trop froid, avoir un processus de gasification qui va se passer. Et temporairement, vous allez avoir une petite bulle d'air qui va apparaître sur le cadran. Mais dès le moment où la montre va se réchauffer, vous allez avoir un cadran tout à fait classique. Donc c'est uniquement un problème esthétique temporaire qui peut éventuellement apparaître.
Et de l'huile ! Mais de l'huile !
Pile à l'heure.
Merci Marie-Lise. Sortie de boîte, tout se chasse son terme. C'est le directeur de Créapol qui nous a accompagnés ce soir, Daniel Rueg. Une dernière question avant de vous laisser partir. Si les gens nous écoutent, hésitent à lancer leur entreprise, vous leur conseillez quoi ?
Alors n'hésitez pas, mais faites-le avec passion. Passion, le mot allemand, Leidenschaft, il dit quoi ? Il dit que vous risquez de souffrir. Ça, faut en être conscient. Les gens qui viennent me voir, je leur dis, vous êtes prêts à sprinter ? Oui, en général, mais c'est pas 100 mètres, c'est un marathon.
Comme Churchill vous promettait du sang, de la sueur et des larmes.
C'est ça. Mais c'est tellement beau, c'est tellement enrichissant. Allez-y, osez.
Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce soir. Très bonne soirée. Cet entretien, vous le retrouvez dans le courant de la soirée sur notre site internet et Sortie de boîte revient semaine prochaine. On connaîtra d'ailleurs avec précision la hauteur de la boîte puisque nous recevrons Eric Schneider de l'entreprise Silvac à Malleray, une société spécialisée dans la mesure de tout ce qui est imaginable et mesurable. Immensément excellente. Voilà la taille de la soirée qu'on vous souhaite. Très bonne soirée.
Sortie de boîte.